Comment allez-vous ce matin? Bonjour, chers amis. On est le 14 avril 2013 à la Villa Saint-Martin, dernière journée de la retraite. Que faire pour grandir? Comme toujours, les retraites de 3 jours sont beaucoup trop courtes. Mais cette retraite n'a pas commencé le 12 avril et c'est mon souhait pour nous qu'elle se poursuive très longtemps encore dans nos vies et qu'elle ne se termine pas avec cette belle journée. Je me suis encore levé ce matin en souriant, accueilli par le soleil, les oiseaux, les bourgeons, et cet air si frais. Vous savez, lorsque j'ai quitté le Vietnam il y a 8 jours, cet air frais me manquait beaucoup. Et je me suis dit, je vais pouvoir retrouver cet air frais au Canada et les magnolias en fleurs. Donc j'ai retrouvé une partie de cela, l'air frais, les oiseaux et le soleil. Mais les magnolias se font un peu attendre, mais ça va venir. Et avec quelques amis ce matin, devant à l'entrée, on s'est souvenu comment l'année dernière, ce magnifique arbre était en fleurs. Et ça me rappelle cette image de je ne sais pas trop quel saint, qui en plein hiver a regardé un arbre et a souri parce qu'il pouvait voir que les fleurs, les feuilles et les fruits sont déjà là. Alors c'est un amandier en fleurs. Alors nous, on contemple le magnolia en fleurs dans notre cœur. Pendant mon voyage au Vietnam, les images sont souvent revenues. Et c'est merveilleux que de pouvoir garder ces belles images dans notre cœur pour pouvoir aller les puiser et les ressortir pour meubler, pour embaumer, pour fleurir l'endroit où nous sommes. Où que nous soyons. Je vous ai parlé de mon voyage au Vietnam, je vous ai parlé de la pratique du retour chez soi. Et pendant les derniers mois, mes derniers mois, la place où je me suis senti le plus chez moi n'était pas vraiment au Vietnam, mais c'était en Thaïlande. Je m'en suis aperçu avec beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur. C'est que mon chez-moi n'est pas limité à un pays ou à une place, mais mon chez-moi peut se manifester n'importe où. Et dans mon chez-moi, j'aime beaucoup la chanson que nous venons de chanter. Quand j'inspire, je retourne dans mon île intérieure. C'est ça mon vrai chez-moi. Et dans ce chez-moi, il y a la Villa Saint-Martin, il y a ce beau magnolia en fleurs, il y a cette merveilleuse sangha avec laquelle je me sens vraiment chez moi, avec mes amis, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mon père, avec nos ancêtres spirituels. Et lorsque je peux retourner à la Villa Saint-Martin, que ce soit la vraie Villa Saint-Martin dans laquelle nous sommes présentement, ou dans le Saint-Martin que je porte dans mon cœur, je suis chez moi et je suis vraiment arrivé. Ce matin, pendant le petit déjeuner, on a échangé Monique et Lily et moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un petit message que j'ai reçu hier. Ceux qui nous servent comme exemple dans cette pratique sont ceux qui brisent les règles. Moi, je suis pour rien. Je suis au-dessus des règles, non? Mais comprenez que je vais appeler, en appeler à votre générosité. Ça fait 5 mois que je ne les ai pas vus. Et je n'ai pas eu le temps de leur parler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais me prosterner pour me faire pardonner. Alors donc, j'en appelle à votre générosité et indulgence. Mais dans notre conversation, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on s'est mutuellement arrosé nos fleurs intérieures. Et c'était très simple. On s'est demandé, Lily, est-ce que vous vous souvenez, c'est quand la première fois que nous avons fait notre retraite ici? Je vous avais parlé de Koan hier. Et c'est cela notre pratique de Sangha. Nous nous reflétons l'un sur l'autre. Nous nous arrosons les fleurs mutuellement. Et nous nous encourageons dans notre pratique à retourner à l'intérieur très profondément pour pouvoir redécouvrir, toucher aux merveilleuses graines qui sont là et qui sommeillent en nous. 2004, la première retraite ici, à la Villa Marguerite, avec Sœur Annabelle et les monastiques du village des Pruniers. L'une des sœurs qui accompagnait Sœur Annabelle s'appelle Sœur Quingim. Et Sœur Quingim maintenant est l'une des... Il l'appelle Suma, l'une des mamans du monastère de Thaïlande. Et le monastère de Thaïlande où j'étais est un verger très simple. Et... c'est le verger qui accueillit les réfugiés ou les monastiques qui étaient expulsés du Vietnam à cause de la répression au Vietnam contre le monastère Bát Nhã, Prajna. Alors j'étais dans le quartier des hommes. Et le quartier des hommes, c'est vraiment le verger avec les arbres en fruits. Et lorsqu'ils étaient arrivés là il y a 2 ans, il y avait un shed, c'est-à-dire un shed, un abri et une toilette. Ils étaient 60. Maintenant, ils se sont établis avec des chaumières. Des chaumières, ce sont des maisons en chaume. Il n'y a pas de mur. Alors c'est un toit de chaume, des colonnes pour porter le toit de chaume, c'est-à-dire des petits bambous. Et autour, ils ont des panneaux de bambous tressés. Les lits sont des lits de bambou, mais ce ne sont pas vraiment des lits. Ce sont des espèces de trucs. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est à 4 pattes et puis ce ne sont pas des... En tout cas, mais qui sont faites pour mettre les cadavres des morts avant leur immune. Alors ça se vend très peu cher et c'est ça qui nous sert de lit. Naturellement, on a des paillassons pour servir de matelas et on se sert de notre coussin de méditation pour comme oreiller et on a chacun un moustiquaire. C'est très important parce que sans moustiquaire le soir les moustiques vous prennent puis ils vous transportent. Comme équipement de cuisine, on a encore des trucs avec trois, non pas des gamelles, des fours avec trois pitons, puis avec du bois. Pour allumer. Et j'ai vécu là 10 jours avec les monastiques. J'étais chanceux parce que c'était aussi pendant le temps du Nouvel An vietnamien. Et j'étais aussi très chanceux parce que une semaine après, ils fermaient le monastère temporaire pour le remettre aux propriétaires qui nous ont prêté le terrain pour 2 ans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont maintenant aménagés dans un vrai monastère, très moderne, avec des chambres climatisées, où ils sont maintenant 4 moines par chambre, dans des constructions toutes nouvelles, modernes, en béton. Alors pendant mon séjour avec les festivités du Tết, du Nouvel An vietnamien, j'ai pu vraiment retourner à toutes ces traditions ancestrales. Comment préparer les gâteaux du ciel à la main. Alors donc, ils étaient tous là en train de préparer les feuilles de banane et les... tremper le riz et tremper les mung bean et tout ça. Donc on a passé toute une journée à nettoyer, laver les feuilles de banane, bananier. Pendant que d'autres trempaient le riz gluant et les mung bean, nous avons passé une autre journée à les emporter, à en faire des beaux gâteaux. Et ça a pris 24 heures pour les cuire. Donc c'était des gros fûts, puis dedans. Puis, donc il fallait entretenir le feu pour garder la cuisson. Alors on a passé 24 heures autour du feu pour entretenir. Donc ce sont toutes ces traditions que j'ai pu vivre. Et à la journée du Nouvel An. Il y avait les dragons, la danse des dragons, il y avait les pétards, il y avait tout ce que j'avais vécu en enfance. Naturellement, il y a aussi les grandes personnes recevaient les vœux de leurs plus jeunes et de leur donnaient des enveloppes rouges avec de l'argent. Et donc, on a été voir les monastiques selon leur rang pour leur souhaiter cela et recevoir leur blessing. Et ensuite de ça, chaque chambre, chaque maison, chacune de ces paillotes, qui, dépendamment de laquelle, dans la mienne, on était les civils, on était 8. Mais il y avait d'autres qui abritaient 12 personnes. Alors, dans chacune de ces familles, on passait beaucoup de temps pour décorer leur maison et aussi pour préparer tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir recevoir les personnes qui venaient. Alors, donc, la première journée, c'était le quartier des hommes, le monastère des hommes qui recevait les dames. Alors, elles venaient toutes du monastère, femmes, et elles nous visitaient. Alors, quand elles nous visitaient, on devait les entretenir et les treat them avec ce qu'on avait. Et chaque maison compétitionnait pour offrir ce qu'il y avait de mieux. Ça durait de 10 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et lorsque à la fin, le lendemain, c'était les dames qui nous recevaient, et puis c'est la même chose. Il y a 100 monastique sans monial et 50 moines maintenant en Thaïlande. Et je me souviens qu'on a dû visiter 18 familles de moniales pendant la journée. Et à chaque place, on devait présenter nos voeux, quand même manger ce qu'ils nous offraient, mais le faire assez vite pour pouvoir aller à la prochaine. Alors, je ne me souviens pas à quelle heure on a fini, mais les moines étaient très impressionnés que je sois encore avec eux jusqu'à la fin. Vous savez, c'est drôle à dire, ben c'est vous riez, mais vous comprenez. Mon maître est en train de faire sa tournée en Asie. Et après la tournée en Asie, ça va être la tournée je ne sais pas où, puis après ça, ça va être l'Amérique. Alors il n'arrête jamais de voyager et de faire et d'enseigner. Et lorsqu'il y va, il y a toujours une délégation de monastiques qui le suit. Et on peut voir par leur résilience le niveau de leur pratique. Thaï peut passer 365 jours de voyage et d'enseignement. Et puis il est aussi frais au début de l'année qu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de différence entre minuit moins une et puis 0h05 de la nouvelle année. Les constants, toujours pareil. Mais les jeunes moines qui le suivent sont comme des jeunes chevaux. Très énergiques au début, mais après un mois, deux mois, c'est la grippe, et puis c'est la bronchite, et puis ils tombent tous de maladie. Et hier, dans ma famille, on a échangé sur la fatigue. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre la fatigue que nous ressentons pendant une retraite et la fatigue que les moines peuvent ressentir dans une tournée, ou la fatigue que j'aurais pu ou que les moines m'ont prédit lors des festivités du Tet. Alors donc, c'est trop long comme introduction, je voulais juste prendre une minute pour vous parler de mon retour chez moi. Et donc, ce retour chez moi, je l'ai retrouvé en Thaïlande, et c'est merveilleux. Ces merveilleuses images qui sont ressorties et qui ont pris une nouvelle vie en moi, je vais les garder et m'en souvenir et en prendre soin. Et parce que nous portons tous à l'intérieur de nous ce genre de trésors, ces joyaux, c'est notre pratique en sangha que de pouvoir aider nos amis, de pratiquer à les toucher. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, pour briser, et c'est la raison pourquoi nous avons brisé le noble silence. C'est que nous nous sommes mutuellement arrosés nos fleurs, et nous nous sommes aidés à identifier ou à toucher les trésors qui sont à l'intérieur de nous. Alors 2004, la retraite ici, c'est ce genre de graines que nous avons à l'intérieur de nous et qui peuvent, et que je pense que nous avons pu identifier et toucher pendant notre conversation. Alors une conversation peut être anodine, mondaine. Une conversation peut être une occasion de transformation. Et c'est cela qui fait la différence entre une pratique et une non-pratique, ou la pratique de la non-pratique. La pratique, ce n'est pas de ne pas être, de ne pas parler. Parce que je sais que ne pas parler ne veut pas dire silence. Et des fois, quand on parle pas, c'est beaucoup plus bruyant que lorsqu'on parle, à cause du canal NST. Mais lorsqu'on parle, et qu'on parle dans la pleine conscience, et qu'on parle comme le maître Linji, et qu'on sait ce qu'on fait, nos paroles ont un effet de transformation. Alors parler ou ne pas parler, ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'il y a une pratique, est-ce qu'il y a une profondeur ou non? C'est ça la vraie question. Donc la fatigue de mon groupe, de ma famille hier, il y avait certaines personnes qui ont exprimé beaucoup de fatigue à la fin de la journée du samedi. Il y en a d'autres qui disent, non, non, moi je suis bien, c'est correct. Et je nous ai observés et je me suis observé. Et je pratique très souvent, ou bien aussi souvent que je le peux, la pratique du miroir. Et la pratique du miroir, c'est une pratique qui a été aussi enseignée dans le temps du Bouddha par le grand maître Moggallana. Et la pratique du miroir consiste à se refléter, à se regarder en travers des autres pour s'y retrouver et pour te voir. Alors quand un ami me dit « je suis fatigué », je ne la regarde pas, puis je lui dis « hey, t'es donc pas bon, t'es donc pas fin, t'es donc... » etc. Et, non, c'est ça qu'on fait d'habitude. Mais là, j'essaie de pratiquer. Cette personne est fatiguée. Est-ce que je suis fatigué, moi aussi? Oui ou non? Cette personne est fatiguée, il y a des raisons à sa fatigue. Sa fatigue peut être causée par ceci, par cela. Est-ce que j'ai les mêmes raisons? Est-ce que ma fatigue est causée par les mêmes raisons? Alors j'utilise ces signaux, j'utilise ces miroirs pour pouvoir me voir et m'y refléter. Et la fatigue que nous pouvons ressentir pendant une retraite est tout à fait normale. Et chacun de nous vient avec un bagage et une histoire. Notre histoire et nos bagages. Dans notre vie quotidienne, nous essayons, mais souvent nous ne sommes pas là. Et plus souvent que d'habitude, nous sommes sur le pilote automatique. Non, oui. Oui, 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 oui. Moi aussi. Ne vous en faites pas. Et merci pour le pilote automatique. Parce que sans le pilote automatique, on ne serait pas capable de faire le quart de ce que nous faisons. Alors les amis qui ont appris avec moi l'Abhidharma et le fonctionnement de l'esprit savent que nous sommes une machine merveilleuse et que nous apprenons vite. Et nous sommes aussi, grâce à notre merveilleux ego, grâce à ce merveilleux manas qui veut nous préserver et qui veut nous faire durer longtemps, nous apprenons à toujours prendre les moyens les plus faciles. Et le pilote automatique, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins exigeant. Et c'est pour ça que nous sommes toujours sur le pilote automatique, parce que nous avons une très belle machine qui sait comment nous préserver. Alors lorsque nous venons dans une retraite, et puis tout d'un coup on nous demande « respirer dans la pleine conscience ». Mais c'est fatigant, respirer dans la pleine conscience. Parce que c'est toute l'attention que nous devons y mettre, et l'attention que nous y mettons, ça consomme de l'énergie. De la même façon, lorsque nous marchons dans la pleine conscience, ça prend beaucoup plus d'énergie que marcher automatiquement. Alors donc, les personnes qui étaient fatiguées hier, sont peut-être fatiguées parce qu'elles ont... elles sont revenues à leur pratique et elles ont laissé l'automatisme de côté. Alors mes félicitations. Mais ce n'est pas la seule possibilité. L'autre possibilité, c'est que lorsque nous sommes dans notre vie courante et que nous sommes en train de courir, il y a un phénomène qui s'appelle l'adrénaline qui kick dedans. Alors on carbure à l'adrénaline. Alors lorsqu'ici, on nous conseille, laisse-les ouvrir tout ça. On est vraiment en contact avec la vraie chose. Et la vraie chose, c'est qu'on est vraiment fatigué. On ne s'en est pas aperçu pendant le dernier mois. On était trop occupé à courir. Alors là, on est vraiment en contact avec notre corps. Et nous écoutons notre corps. Nous pouvons l'écouter et l'entendre. Et il nous dit, je suis fatigué, va donc te coucher au lieu d'écouter Tianhui raconter ses balivernes. Alors la fatigue peut être cela, quelque chose que nous avons ignoré, que nous n'avons pas entendu, et qui se manifeste parce que tout d'un coup on revient chez soi, puis on est en contact avec la réalité. Troisième possibilité, c'est que nous sommes fatigués parce que nous ne savons pas comment nous préserver. Et peut-être que nous carburons pour rien, je ne sais pas. Alors la même chose, le même phénomène, peut avoir beaucoup de significations et de causes et conditions différentes. Tout ça pour dire que ne soyez pas trop vite pour juger. Ne soyez pas trop fier trop vite. Observez. Non pas les autres. Observez-vous, vous-même. En utilisant tous les miroirs qui sont autour de vous pour vous le refléter. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'un reflet de vous. Vous voyez une personne fatiguée, vous êtes fatigué. Vous voyez une personne heureuse, vous êtes heureuse. Puis vous êtes toujours la même personne, à la fois heureuse et fatiguée. Vous voyez quelque chose qui est irritant. Ce n'est pas la personne qui est irritante. Ça vous irrite parce que ça vous reflète ce que vous êtes et que vous n'aimez pas. Et c'est ma pratique. Ça s'appelle la pratique du miroir. Mirroring and reflecting. La vraie pratique du temps du Bouddha, telle qu'enseignée par Moggallana, c'est que le moine se présente devant la communauté et se prosterne devant la communauté. Noble communauté, cher moine, s'il vous plaît, éclairez-moi. Dites-moi pourquoi je ne peux pas être en contact avec telle personne. Dites-moi pourquoi je ne peux pas faire telle chose. Dites-moi tout ce que vous pouvez voir sur moi et que je ne peux voir. Et se prosterne devant, humblement, pour pouvoir demander à la communauté de l'aider à mieux se comprendre, à mieux se voir. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette facilité d'avoir une communauté en qui nous pouvons nous confier ou demander cela, mais nous pouvons le faire nous-mêmes aussi. Sans avoir de demander, juste regarder, observer. Et la même pratique peut s'appliquer. À quelle heure on finit aujourd'hui? Je dois finir aujourd'hui. Trop court. Il nous reste très peu de temps. Et c'est pour ça que je voudrais m'assurer que vous quittiez cette retraite. Si vous avez une question brûlante ou deux ou trois, posez-les maintenant, c'est le temps. Pouvez-vous écrire peux-tu écrire sur le tableau pour moi la question? Comment faire pour ramener cette pratique dans votre vie de tous les jours? C'est ça? Peux-tu l'écrire s'il te plaît pour pas qu'on la perde? Merci. Une autre question? Ne vous en faites pas. La question que vous avez, il y a beaucoup de monde qui l'ont aussi. Alors, s'il vous plaît, exprimez-la. La même question, il y avait 20 personnes derrière, n'est-ce pas? C'est sûr. Okay. D'accord, parfait. GOI, c'est quoi? Good. Very good question. OK, différence entre les 5 et les 14, merci. Les 3 joyaux, les 5, les 14.
Nathalie Ramassa, une fois, deux fois, Yorel Ramassa. C'est ça ce qu'il a fait maintenant. Les trois joyaux sont à la base de notre pratique et de la pratique bouddhiste. On prend refuge dans le Bouddha. On prend refuge dans le Dharma, on prend refuge dans la Sangha. Les trois joyaux, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha, l'être éveillé, un être humain qui s'est éveillé à la grande compréhension. Et on est capable également de nous éveiller en tant qu'être humain. On ne va pas devenir des dieux pour cela. On peut s'éveiller à tout moment de la journée grâce à la pleine conscience qui éclaire notre observation et notre compréhension quotidienne. Et c'est ça la beauté de la pratique de la pleine conscience. C'est qu'elle nous permet des éveils à tout moment. Alors, on vise très loin quand on vient, quand on découvre la pratique et quand on entend des tas de nouvelles choses. Mais quand vous allez partir d'ici, oubliez tout ça et rappelez-vous tout simplement l'instant présent, la respiration consciente à tout moment, la méditation dans l'action, la plus banale qui soit, en allant aux toilettes, en montant dans sa voiture, en retrouvant le trafic, en défaisant la valise, en arrivant à la maison. Elle est juste là, la pratique. Et l'éveil, il va être juste là. Tout ce qu'on a entendu pendant ces deux jours de retraite vont nous apparaître clairement. Et ce qu'on va comprendre à ce moment-là, ça va être l'éveil. Alors, quand on prend refuge dans le Bouddha, on prend refuge dans ce qu'il nous enseigne. Prendre refuge, ça veut dire aller dans un endroit qui nous sécurise. Un endroit où on a confiance, où on se sent bien. Si on n'est pas à l'abri, ce n'est pas un refuge. Quand on parle du Bouddha qui a compris des choses, ça n'exclut pas tous les grands maîtres qui ont aussi compris des choses. Ça peut être nos parents aussi. Ça peut être vos maîtres spirituels. Alors faites la part des choses. Prendre refuge dans celui ou celle qui a compris avant nous. Pour nous aider. Si ça ne nous convient pas, on ne prend pas refuge dans ça. Mais ça, ça va nous aider à trouver la vérité en nous-mêmes et autour de nous. Et à ce moment-là, on prendra refuge en soi-même. Quand on chante « Je suis chez moi, je suis arrivé », c'est ça. C'est parce qu'on a trouvé et c'est parce qu'on est content et parce qu'on est heureux. Je suis chez moi, je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a que la réalité qui est vraie. L'instant présent, c'est la seule réalité. Et je prends refuge en moi-même parce que c'est moi qui ai compris. C'est moi qui vais avoir affaire à ça à tout moment de la journée. C'est moi qui vais être seule dans ma chambre. C'est moi qui vais être seule dans ma salle de bain. C'est moi qui vais être seule dans mon ordinateur. Même si je suis entourée d'enfants et de maris et de parents et d'amis et de voisins, je suis seule face à moi-même. Mon miroir, c'est ça. Quand la tempête arrive pendant la journée, il n'y a que moi qui puisse y faire face. Alors c'est en moi que je me réfugie pour voir ce qui se passe en moi. Toute cette fébrilité, quand je vais retrouver, je vais remonter dans la 13 tout à l'heure, je vais voir comment je me sens. Je vais voir ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et je vais voir comment je vais entreprendre et comment je vais continuer ma pratique quotidienne. Et comme j'ai dit hier, pas de tiroir, pas de cloison, pas de séparation. D'ici, la porte, il y a plusieurs carreaux. On peut les compter. Mais dans chaque carreau, il y a des espaces. Chaque espace, c'est l'instant. Et la pratique, elle est dans cet instant. D'ici à là-bas et de là-bas à là-bas et là-bas. Il n'y a pas de séparation. C'est subtil. Alors je prends refuge dans ça. Je prends refuge dans chaque pas qui va m'éveiller. À chaque instant. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Et ceux qui habitent à Rwanda ou Timiskaming, il y en a à faire encore plus. Le dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. Quand il a parlé, quand il a enseigné, il a dit un dharma. Et il a compris le dharma de la vie. Ce dharma de la vie, nous devons le comprendre. C'est la vie de tous les jours. C'est la réalité, ce sont les phénomènes physiques. L'environnement, c'est la vie telle qu'elle est, avec son impermanence, avec ses nouveautés, avec ses naissances, avec ses hauts, ses bas, ses joies, ses tristesses, nos sautes d'humeur. On va en avoir tous les jours. On n'est jamais pareil, même si on recherche la stabilité et la sérénité. Un jour se lève, ah, quelque chose d'autre. Je reviens à ma pratique. Ça va être toujours comme ça. Rappelez-vous l'image du singe et de l'arbre. L'arbre qui reste stable et solide. Le singe qui saute de branche en branche. On est comme un arbre. Nos branches, notre tête, notre esprit va aller au gré du vent, au gré des humeurs, au gré des accidents, au gré des nouvelles. Au gré des événements, il va y en avoir tous les jours. C'est la vie et on ne peut rien faire d'autre. Même si on voudrait que ça cesse, mais ce n'est pas possible. Ça peut cesser maintenant, à chaque instant. Ça, on peut le faire cesser. On peut être ce tronc solide grâce à la respiration. C'est à nous à le faire. Personne ne peut le faire d'autre que nous. On peut le faire à n'importe quel moment et on peut le faire n'importe où et devant n'importe quelle personne, dans n'importe quel bureau, dans n'importe quel hôpital, n'importe où. Je prends refuge en moi-même. Mon singe peut continuer à sauter. Les branches de ma tête et de mon esprit peuvent continuer à se balancer au gré du vent. Je prends refuge en ma respiration. En ma stabilité souveraine ici et maintenant. Je prends refuge dans le dharma de la vie, le dharma quotidien qu'on va dire c'est banal. On veut fuir le quotidien, mais c'est là qu'est la pratique, dans les choses qui nous arrivent à l'improviste, qu'on n'attend pas, qu'on ne désire pas et dont on voudrait se défaire. Mais c'est là qu'elle est la pratique, justement dans ces choses qui vont venir nous embêter. C'est pas la peine de se leurrer, c'est juste là. Et la pratique, c'est de la regarder, de regarder ces choses qui nous embêtent. Et même si elle nous embête, c'est de rester dans l'instant présent. Ça veut dire que même s'il y a un grand drame, je continue à respirer. Cet instant-là, pendant cet instant où je parle maintenant, il n'y a pas de drame. Alors, le drame, c'est quelque chose de... On peut le regarder assis, tranquillement, sur un coussin, on peut l'observer. Mais d'ici à ce qu'on s'asseye, il n'y a pas de drame. Et peut-être qu'une fois qu'on va être assis, on va regarder, c'est peut-être pas un drame. C'est peut-être tout simplement une perception, une façon de voir les choses, une façon de comprendre. Il n'y a peut-être rien. Et rien ne peut démolir, déranger ma stabilité. Personne d'autre. Je l'ai dit hier. Un seul être me manque, tout est dépeuplé. À cause d'un être, on est malheureux. À cause d'une personne, on va se tuer. À cause d'une émotion, comme dit Thaï, on va se suicider. Pourquoi? Il y a toujours des beaux oiseaux dehors. Il y a toujours une respiration avec moi. Il y a toujours une belle musique quelque part. Un bel arbre quelque part. Juste ça la vie, les pierres de cette villa qui sont magnifiques au soleil, juste ça. Alors la vie est belle à chaque instant, mais quand on manque les instants, alors on va vers le drame. Et c'est ça qui nous démolit. Prendre refuge dans le dharma, c'est prendre refuge dans l'instant présent de la vie. Tout entier, mais dans chaque instant, ça, prendre refuge dans ce moment-là. Je suis chez moi, je suis arrivée. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, solide, ancrée. Je prends refuge en moi-même, à chaque instant. La Sangha, ce sont mes amis de pratique. Les personnes qui ont pris refuge en le Bouddha et qui ont pris refuge en le Dharma, qui acceptent, qui reconnaissent, qui aiment, qui veulent bien poursuivre cette pratique-là et qui rencontrent d'autres personnes qui vont pratiquer comme elles, qui vont parler le même langage. On utilise les mêmes mots, on se comprend et parfois on ne se parle pas, mais on se comprend aussi quand on fait le noble silence. Et ça s'appelle la Sangha. La Sangha, ça a commencé avec 5 compagnons de pratique qui accompagnaient le Bouddha avant que le Bouddha devienne Bouddha, quand il était encore prince, et qui a cherché l'éveil. Et il y avait des compagnons avec lui. Et après, quand il a compris, il les a retrouvés, il leur a expliqué. Et les enfants à qui il a expliqué ses découvertes l'ont appelé Bouddha. Ça veut dire éveillé. Ah, tu as compris, tu es éveillé. C'est comme... Alors c'est ça. Il dit, ok, je m'appelle Bouddha. C'est tout simplement ce que ça veut dire, Bouddha. Et quand on prend refuge dans la Sangha, ça veut dire qu'on retrouve des amis avec qui on va être bien, qui ne vont pas nous juger, qui vont nous accompagner, qui vont nous soutenir, avec qui on va méditer, on va échanger, on va avoir des hauts et des bas. C'est pas toujours rose. Parce que chaque personne est une personne. Chaque personne a ses humeurs. Chaque personne a ses tracas de la vie. Mais une fois qu'on est tous ensemble, on se rappelle le dharma. On se rappelle la pratique, on retrouve ce qu'on veut, ce vers quoi on tend, et ce qu'on pratique tous les jours. Et chaque fois qu'on se retrouve et qu'on pratique ensemble, une fois par semaine ou deux fois par semaine, on repart à neuf. Et c'est pas une phrase envoyée en l'air, on repart vraiment à neuf. Pendant 2 heures, on a médité. On a entendu des textes ou pas, on a échangé. Quand on se quitte, on n'est plus détendu. On n'a peut-être pas réglé les problèmes pour autant, mais au moins, on a passé 2 heures d'instant présent ensemble. Et on a pris refuge dans ces moments-là. Et on repart tranquille, prêt à recommencer. Et on recommence encore et encore. Alors, chaque fois qu'on peut être ensemble, on le fait. Et on cherche ces occasions-là. Parce que lorsqu'on est seul à la maison, on retrouve très vite nos énergies d'habitude, nos monologues intérieurs, questions-réponses intérieures. Tout le monde à la maison ne pratique pas comme nous. Alors, il se peut qu'on soit seul à la maison, même si on est très entouré. La maison, ce n'est pas toujours une sangha. C'est une sangha différente avec laquelle on a affaire. Et parfois, c'est plus difficile, la sangha de la maison, que la sangha de pratique. Alors ça, c'est les 3 joyaux. Ce sont des joyaux parce que c'est la base de la pratique. Et c'est ça, prendre refuge dans les 3 joyaux. Maintenant, on ne change pas de religion quand on prend refuge dans les 3 joyaux. On continue à être, tout simplement. 5 entraînements, 14 entraînements, 200 et quelques. 200 et quelques, c'est pour les monastiques. Tu as eu peur? Les 5 sont ceux dont nous avons parlé hier. Ils ont commencé, comme Gilles l'a dit, très simple, pas voler, pas tuer, ne pas tromper sa femme ou son mari, ne pas mentir et ne pas prendre d'alcool. Ça a commencé, aussi simple que ça. Et puis la vie a ajouté l'internet, a ajouté les drogues, a ajouté les transsexuels, a ajouté les tas de choses. Alors, Thich Nhat Hanh a adapté les 5 entraînements et ils étaient comme ça, prévisés comme ça. Maintenant, ils sont plus, non, mais voilà, vous les avez lus, alors c'est ça, les 5 entraînements. Les 14. Il était une fois la guerre du Vietnam. Thich Nhat Hanh était un moine, et toujours un moine, qui était très jeune pendant que la guerre était là, et qui voyait, et qui a vu, et qui a vécu une souffrance intense. Tout ce dont on a entendu parler dans les journaux, les horreurs de la guerre du Vietnam, vous avez tous entendu. Lui, il était là-dedans. Et en tant que moine ardent et jeune, et révolutionnaire, dans le bon sens du terme, il a dit, la souffrance est dans la rue, c'est dans la rue qu'elle doit être soignée, c'est dans la rue qu'on doit prendre soin des gens. C'est pas seulement dans les monastères à lire des textes et à être protégé par 4 murs d'un monastère. Le vrai sens du bouddhisme pour lui, c'était prendre la pratique du monastère et la mettre, la porter dans la rue, la vie de tous les jours, la vraie vie. Alors il a fait sortir les moines pour les mettre dans la rue et leur dire, c'est là que vous devez pratiquer. Maintenant, ce n'était pas suffisant. Les moines, les moniales, ce n'était pas suffisant. Ils étaient vite débordés. Un jour, un village brûlé, un autre jour, une école démolie. Il y en avait tellement à faire. C'est l'horreur. On est vraiment protégés ici. On ne sait pas. On ne connaît pas notre bonheur. Alors, il avait besoin de tout le monde pour reconstruire les villages, pour sauver les blessés, pour prendre soin des orphelins. Tout le monde devait mettre la main à la pâte. Alors il a engagé, ou là, il a entraîné avec lui tous les jeunes qui étaient là. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Chacun avait quelque chose à faire, il y en avait tellement à faire. Il n'y avait pas assez de personnes. pour entraîner ces jeunes et pour leur apprendre les rudiments, le minimum, comment faire pour prendre soin d'eux. Il a créé une école, l'école de la jeunesse et du service social, l'école où on leur apprenait des bases de plus que de la pratique, mais que faire en ce cas-là, dans ces moments-là. Tu étais tout jeune, de 16, 15 ans. Ces jeunes-là, rapidement, ils ont été débordés aussi. Il leur fallait des ressources, il fallait les nourrir spirituellement, parce qu'ils étaient vite désespérés. Il y en avait qui n'en pouvaient plus. Il y en a qui ont été pris aussi, qui ont été tués, qui ont été fusillés, toutes ces choses de la guerre. Alors il a dit, la pratique doit demeurer malgré tout ça, malgré tout ce qu'on fait dans la rue. Comment faire sinon on va être débordé, on va être dépassé. Alors on avait besoin de ces moments d'arrêt, on avait besoin de se ressourcer, on avait besoin de pratique, on avait besoin de soutien mutuel. Il a dit, il faut qu'on s'arrête au moins une fois par jour, une fois par semaine. Alors, et pour lui, le bouddhisme, ça n'avait pas son sens s'il n'était pas engagé, s'il ne servait pas à quelque chose. Alors, il a créé le bouddhisme engagé, c'est ce qu'il a appelé l'engagement de la pratique. On s'engage, on met en pratique ce qu'on pratique. C'est-à-dire qu'on l'amène partout avec nous. Il faut qu'on l'utilise. Alors si on suit la pratique du Bouddha, si on suit le Dharma, il faut que ça nous serve à quelque chose pour nous et pour les autres. On inter-est. Alors, ce qui arrive à l'autre m'affecte. Ce qui m'affecte arrive à l'autre aussi. Alors il a créé l'ordre de l'inter-être. La communauté de l'inter-être, inter-être, parce que quand j'inter-suis, je prends contact, je touche la souffrance. Quand je reste dans mes quatre murs, je ne vois pas la souffrance, je ne vois pas tout ça. Mais quand je mets ma pratique au service de tout ce qui m'entoure, pas seulement de moi, mais tout ce qui m'entoure, alors je rentre en contact avec la souffrance, je rentre en contact avec tout ce qui se passe, avec la vraie vie. Et aussi, je réalise, ça veut dire ce que je pratique se réalise. Et je transmets ce que les ancêtres ou les maîtres avant moi m'ont appris. Je transmets l'enseignement du Bouddha, je le réalise, il est concret. Il ne reste pas dans les livres, ce n'est pas seulement des sutras. Alors la communauté de l'inter-être, c'est ça, ce sont des personnes qui s'engagent, qui rentrent dans cette communauté, sont des membres de l'inter-être. L'interdépendance accepte et reconnaît que nous inter-sommes tous. Et alors à l'époque, il a créé cette communauté dans les années 60, et il y avait 6 personnes qui ont pris, qui sont devenues membres de l'inter-être. Et une fois par mois, par semaine, ils s'arrêtaient un dimanche pour avoir une journée de pleine conscience, malgré tout ce qui se passait dans la guerre, et dans les villages, et dans les rues, malgré le désastre, l'océan de feu dont on a parlé hier. Ces personnes s'arrêtaient là, une marche méditative, une méditation assise, une lecture de textes, repos, repos et ressourcement. Et le lendemain, retour dans la rue, retour dans le feu, retour dans le désastre et dans la désolation. Maintenant, cette communauté de l'inter-être existe encore maintenant. Partout dans le monde, il y a des communautés dans plusieurs villes. Et lorsqu'on aspire, lorsqu'on veut prendre plus que les 5 entraînements, lorsqu'on veut servir la Sangha, lorsqu'on veut être actif, comme Thaï l'était avant et qu'il est maintenant, Alors, on dit, je désire être membre, devenir membre de l'ordre de l'inter-être. Et je suis présente dans la sangha, je montre ma présence. Je suis là. C'est pas que je reste chez moi et je dis, bon ben, je vais devenir membre de l'ordre de l'inter-être. Ça n'a pas de sens. Tout le sens de devenir membre de cette communauté, c'est se réaliser, s'améliorer, pratiquer pour que notre pratique serve et se reflète en plusieurs autres personnes. Alors c'est le service pour soi comme pour d'autres personnes. Et on fait la demande, on devient aspirant. Il y a un processus à suivre. On fait la demande et quand on devient membre de l'ordre de l'inter-être, c'est par taille ou au village des pruniers ou dans un monastère ou hein. Bon ben c'est ça. Alors on porte cette veste brune. C'est la veste des demi-moines. J'appelle ça parce que le service est profond et entier. Et c'est ça qu'on il a écrit les 14 entraînements à la pleine conscience. Les 14 entraînements, c'est une version des 5, mais beaucoup plus élargie et approfondie. Mais les 5 sont dans les 14. Et si vous ne les avez jamais lus, vous pouvez les trouver dans l'internet ou on peut vous les envoyer. Quand on reçoit les 5 entraînements, on reçoit un nom de Dharma, comme vous avez reçu aujourd'hui. Et quand on reçoit les 14, notre nom est embelli, approfondi. Il est accompagné du nom vrai. Vrai quelque chose. Vraie radiance. Vrai sourire compatissant. Ça ne veut pas dire que je l'ai tout le temps. Mais c'est ce que je dois pratiquer. Le nom que vous avez, c'est ce vers quoi vous tendez. C'est un rappel de votre pratique. Ce sont vos aspirations. Vraie, vraie pratique. Vraie réalisation. Alors c'est ça le processus. On ne vient pas comme ça dire je vais prendre les 14 ou bien je voudrais, oui. D'abord, il faut savoir dans quoi on s'engage. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on est prêt ou prête à servir une sangha, à bâtir une sangha? Si elle n'existe pas dans notre ville, on peut bâtir une sangha. On peut commencer avec 2 personnes, 3 personnes. Et la créer, et la faire vivre, et la nourrir. Et faire tout ce qu'on peut pour qu'elle subsiste malgré ses hauts et ses bas. Tai dit, comme Kennedy, si quelque chose ne va pas bien dans une sangha, demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux? Kennedy avait dit la même chose pour l'Amérique. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour servir votre pays. Et ne pas croire que dans une sangha, c'est différent qu'ailleurs. C'est la vie de tous les jours. C'est la pratique quotidienne. C'est la réalité. Et aller avec une sangha, c'est rentrer dans ce cheminement et le suivre avec les sinuosités, avec les obstacles, avec tout ce qui va se passer.
Les 3 joyaux et les entraînements à la pleine conscience. Il y a un sutra qui s'appelle le sutra du disciple en veste blanche que vous pourrez lire. Il y a aussi un livre explicatif. Très bonne question. C'est la base de la pratique. Les 4 contemplations. Contemplation des 3 refuges et des entraînements. Toutes ces questions sont très profondes et je vous remercie de les poser pour la communauté. lorsque nous avons une question en nous, elle n'est pas personnelle. Et beaucoup d'autres personnes se la posent aussi. Et lorsque je reçois des questions comme cela, je ne me vois pas comme la personne qui répond, mais c'est une question que je me pose aussi et que je vais essayer dans la suite de ma pratique de regarder pour que nous puissions la regarder ensemble comme une communauté. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous donner un aperçu de comment c'est arrivé. Et c'est un processus en cours. Work under in progress. GOI. C'est get over it. Pourquoi est-ce que je m'en suis arrivé là? Dans ma vie, il y a des choses qui me reviennent. Et dans mon émission de NST, il y a des chansons qui reviennent trop souvent et qui me hantent et qui ne me laissent pas tranquille et puis qui me gardent éveillé le soir. Et c'est la même chanson. Et au risque de... Non, ok, je vais me contrôler, donc je ne vais pas dire le mot qui allait sortir, mais je peux vous le dire doucement. Cette maudite chanson qui revient, bout de champ. Et c'est de l'énergie complètement inutile. Tout ce que ça fait, c'est que ça me mange de l'intérieur. Ça crée des émissions d'acide dans mon estomac. Ça me perce l'estomac et j'en fais des bleeding ulcers. Pourquoi? Pour quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, il y a 25 ans, il y a 3 jours. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Lorsque ma fille avait 3 ans, non 5 ans, je l'ai raconté ici. Je ne me souviens plus exactement des détails, mais un jour, elle voulait nous faire une surprise, puis elle a fait la cuisine. Et puis là, naturellement, ben, quand on est jeune, c'est dangereux, surtout lorsque c'est de la friture et tout ça. Alors, elle a complètement salé toute la cuisine. C'était plein d'huile, c'était plein de poutre, farine par terre, puis tout ça. Donc, lorsque j'étais rentré et que j'ai vu ça, je dis, ma fille, tu vas avoir des problèmes avec ta mère, certain. Alors, je l'ai aidé à nettoyer du mieux que j'ai pu. Mais, je fais ce que je peux. Et c'est jamais au goût de ma femme. En tout cas, juste pour faire l'histoire courte, parce qu'on n'a plus de temps, elle a eu très peur quand sa maman est rentrée. Alors elle est dans sa chambre, puis elle s'est embarrée dedans. Et puis naturellement, qu'est-ce que t'as fait de tête? Et puis là, elle s'est cachée jusqu'au soir, puis là, elle a écrit une lettre à sa mère qui disait quelque chose comme... je m'excuse, ou bien excuse la tête qui ne pense pas, excuse ma main qui ne sait pas comment bien faire les choses, excuse, ben, toutes les excuses que possible. Et en conclusion, il disait ceci, parce qu'on s'aime dans la famille, tout va finir par s'arranger. Alors pourquoi ne pas le faire tout de suite, pourquoi attendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va finir par finir. Alors pourquoi ne pas en finir tout de suite? Pourquoi devoir étirer ça, puis cultiver cette peur? Et c'est ça la leçon du Dharma. C'est ça, get over it. Tournez la page, c'est fini, c'est fait. Passons à d'autres choses. La reconnaissance de la faute est là. On sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pourquoi est-ce qu'il faut get over it? Aussi simple que ça. Une autre histoire de get over it que j'avais racontée très souvent dans ma carrière, qui est comment dealer avec les serpents. Alors ça tombe bien, on est dans l'année du serpent. Mais on traîne avec nous des gros serpents venimeux. Et lorsque Lily parle d'une émotion qui peut tuer, c'est ce genre de serpent. Et il y a des serpents qui sont assez forts pour pouvoir nous tuer. Et en entrevue, j'avais dit à quelqu'un, soyez conscient de vos limites. Et c'est cela aussi la pleine conscience. C'est savoir ce que nous pouvons faire et savoir ce que nous ne pouvons pas faire. Et il y a une autre phrase que mon maître m'a dit et qui me revient toujours comme un koan. Do not venture. Do not venture, ne prends pas de risques. Alors lorsqu'on est en prise avec un serpent qui est venimeux et qui est dangereux, on peut faire comme Don Quichotte et aller puis se faire tuer. Pas très intelligent. On peut aussi tout mettre notre attention pour guetter et tout ça. Mais il y a une autre façon qui est beaucoup plus simple et c'est celle que j'avais mentionnée très souvent. Il y a une façon. Prenez un gros panier et mettez-le sur le serpent. Mettez un gros caillou par-dessus. Oubliez-le. Puis allez faire d'autres choses. Allez en Thaïlande, en Inde, n'importe où. Amusez-vous. Laissez le serpent là. Il n'est plus, il ne peut plus vous inquiéter. Get over it. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est dans un panier, il y a un gros caillou dessus. Il ne peut rien faire. Get over it. C'est ça. La pratique, ce n'est pas de s'en enfouir. La pratique, c'est de savoir l'isoler. La pratique, c'est de savoir comment couper son alimentation. Et ce que je vous avais dit hier, c'est que tout ce qui est, et là, parce que de la façon dont nous l'avons nourri, si nous la mettons dans un panier, puis avec un truc par-dessus, puis qu'il n'ait plus de nourriture, il va périr de lui-même. Et c'est cela la pratique. Mettez un couvert par-dessus, un gros boulder, oubliez-le, il va mourir de lui-même. Get over it, c'est ça que ça veut dire. Identifier, isoler, couper leur nourriture. Done. Ça ne sert à rien d'y penser. Ça ne sert à rien de se lever. Get over it, c'est tourner la page. C'est laisser ce qui est au passé dans le passé. Commencer un nouveau présent. Get over it, ça veut dire tourner la page. Ça veut dire commencer un nouveau chapitre. Ça veut dire recommencer à neuf. Ça veut dire commencer une nouvelle vie. Et une nouvelle vie, ça se passe à chaque instant. L'instant d'avant est passé. L'instant d'après est à venir. Il y a sept instants. Nouvelle page à chaque instant. Get over it. Start living. Reclaim your sovereignty. Reclaim your life. Is given to you for the taking free. Je m'excuse pour mon anglais. Donc ça va pour get over it? Claire? Okay. Relativiser la souffrance. Je sais que lorsque c'est notre souffrance, c'est la seule qui existe. Et lorsqu'on souffre, on souffre. Et lorsqu'on souffre, ça fait mal. C'est une façon pour moi de m'aider à m'en sortir. Il y a des livres, je n'ai pas le temps de lire les livres, mais j'aime passer dans les bibliothèques, puis je regarde, puis il y a des titres qui sont merveilleux. Une tempête dans un verre d'eau, avez-vous entendu parler de ça? Puis il y a des tempêtes dans des verres d'eau qui peuvent nous faire crever. Et puis ça dépend de où on se met. Si on se met à être une graine dans un verre d'eau, on a des problèmes. Mais si on peut regarder le verre d'eau de l'extérieur, puis regarder la tempête, qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Je ne la dénie pas, mais je la regarde et je lui donne la valeur ou l'importance que ça mérite, et pas plus. Et à chaque instant, j'ai toujours le choix. Le choix d'être malheureux ou le choix d'être heureux. L'enfer et le paradis existent à chaque instant. Et comme être humain, on est chanceux, on est toujours au milieu. Un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et c'est toujours mon choix de me balancer dans un côté ou de l'autre. Et c'est cela, relativiser la souffrance. Oui, je souffre, mais je peux me laisser entraîner dans la souffrance ou je peux la regarder de l'extérieur. Alors le verre d'eau, la tempête dans le verre d'eau, et c'est toujours un verre d'eau. Ça dépend de notre grandeur. C'est quoi le grand pôle, le grand polype, Goliath, David, je ne sais pas trop quoi, le grand géant, puis le petit poussé. Ok, whoever. Mais si on se met à la taille du géant, je ne sais pas trop quoi, ben le petit verre d'eau de Goliath ou bien de l'autre petit nain, c'est rien. Et c'est tout à nous de pouvoir juger. Le verre d'eau me rappelle aussi une autre chose. C'est la leçon de Thay sur l'amour. Cette chose qui nous tricote, qui nous chicote et tracasse. Plus que vous le pensez. Ces choses qui nous font souffrir, c'est comme cette cuillerée de sel que nous mettons dans notre verre d'eau. Une cuillerée de sel peut rendre un verre d'eau imbuvable, mais une cuillerée de sel n'a aucun effet sur l'eau d'une rivière. Et c'est la leçon sur l'amour. Et c'est la leçon du Bouddha. Cette chose qui nous arrive et qui nous dérange, c'est parce que notre cœur n'est pas plus grand que ce verre d'eau. Mais si avec la pratique, nous pouvons élargir, agrandir notre cœur pour qu'il soit aussi grand et aussi fort et aussi englobant, inclusif que la rivière, cette petite chose qui arrive ne peut pas nous déranger. Alors notre pratique, c'est de faire en sorte que notre cœur ne soit plus un petit verre d'eau, mais devienne un grand lac qui est capable de recevoir et de transformer toutes ces souffrances qui y sont déversées. Et c'est la même leçon que le Bouddha a donnée à son fils, Rahula. Sois comme la terre. La terre est là et peut recevoir. Mais le Bouddha ne connaissait pas l'état de la terre aujourd'hui. Mais elle est là, elle est prête à recevoir tous les parfums que vous pouvez lui verser ou tous les déchets que vous pouvez lui verser. Et elle a la capacité de pouvoir recevoir et de la transformer. Et de la même façon, nous pouvons ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir cela, si nous savons comment. Et la pratique, c'est la pratique des quatre incommensurables, des quatre... Ça va? Le terme que je cherche, je n'arrive pas à le trouver, mais ce sont les quatre composantes de l'amour véritable. Alors l'amour selon l'enseignement du Bouddha qui comprend la bonté aimante, la compassion, la joie et l'équanimité, ce sont ces quatre qualités qui sont qui définit l'amour selon l'enseignement du Bouddha. Et c'est aussi ce qui fait la capacité d'embrassage et de réception et de transformation de notre cœur. Pour y arriver, hier je vous avais parlé des six chemins qui mènent à l'autre rive. Alors, sur l'autre rive, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a compréhension et amour. Il y a ces quatre qualités. Il y a la compréhension qui permet de pouvoir agrandir le cœur. Ou l'amour qui est né de la compréhension. L'amour, selon l'enseignement du Bouddha, n'est possible qu'avec la compréhension. Et la compréhension, c'est comme Lily nous l'a expliqué, c'est le Bouddha en nous. C'est notre capacité de pouvoir nous éveiller. Et il y a six façons de le faire, six façons d'y parvenir, six façons d'arriver sur l'autre rive. L'une des façons que je vous avais promis hier, c'est le Prajnaparamita. Le Prajnaparamita, c'est ce chant qui était si beau que vous avez entendu pendant la cérémonie de ce matin. Et Prajnaparamita, c'est l'enseignement de l'inter-être, c'est l'enseignement de l'interdépendance, c'est l'enseignement de l'univers dans la bouchée de pain. Tout est vide. Vide de quoi ? Vide d'une existence séparée. Il n'y a rien qui peut être. Tout doit inter-être. Il n'y a rien qui peut être de par lui-même. Lily n'est Lily que parce qu'elle est ici, avec nous. Parce que si Lily n'est pas ici, ce n'est pas Lily. Et Lily ne peut pas être toute seule, parce que Lily est là, parce que le soleil est là. Et parce que le soleil est là, nous sommes là aussi. Et c'est pour ça que nous sommes complètement interreliés. Alors, comprendre le phénomène de l'inter-être, c'est comprendre que nous y sommes tous ensemble, dans la même galère. Que nous sommes la seule et même entité, qu'il n'y a aucune séparation entre vous et moi. Et c'est cela, la compréhension parfaite, la compréhension qui permet de transcender toutes les peurs et toutes les afflictions. Et toutes nos peurs et toutes nos afflictions, selon cette réalisation, c'est que tant que nous nous sentons, tant que nous nous croyons séparés du reste, nous allons souffrir. Parce que nous sommes dans cette illusion que nous sommes séparés du reste. Et c'est pour ça qu'il y a... Lui, il est comme ça, il m'a fait ci. Lui, il m'a fait ça. Mais non, ce n'est pas lui. Parce que lui, c'est nous, puis nous, c'est lui. Alors c'est cette réalisation qui peut nous permettre de pouvoir transcender toutes nos souffrances. Comprendre qu'on y est tout ensemble. Comprendre que ça fait partie du même package deal. Et que je suis parce que vous êtes là. Et vouloir que vous ne soyez plus, c'est une illusion. Parce que si vous n'êtes plus, je vais disparaître aussi. Alors, pouvez-vous voir la puissance de cette vision et de cette compréhension ? Il n'y aurait plus aucune guerre qui soit possible. Tous les sentiments, le ressentiment que vous pouvez avoir, c'est seulement parce que vous vous voyez séparés de l'objet de votre ressentiment. C'est toujours l'autre. Alors, si on voit l'autre en nous, il n'y a plus rien de cela qui peut exister. Et c'est ça la réalisation ultime. Et c'est la crème de l'enseignement du Bouddha. L'inter-être, l'interdépendance, l'interpénétration. Et c'est cela notre pratique. Et c'est pour ça que Thay nous appelle membres de l'ordre de l'inter-être. Et nous pratiquons afin de pouvoir réaliser cette réalité, afin de pouvoir la comprendre et la réaliser, en faire une réalité, en faire une vérité, et non pas juste un concept ou une compréhension intellectuelle. Je ne suis pas, je ne peux qu'inter-être. Les six voies sont de la même nature. Il n'y a aucune voix qui peut être d'elle-même. Alors les six voix, les six paramitas intersont aussi. Et les six paramitas intersont aussi avec tous les autres enseignements du Bouddha. Alors on y retrouve les quatre nobles vérités. La respiration consciente, tout fait partie, parce que tout est dans un et le un est dans le tout. Donc les six, parmi les six, il y a un dont je voudrais vous parler et que Lily a commencé à parler. Parmi les six, le premier paramita s'appelle Dana Paramita. Dana Paramita, c'est la pratique du don. La pratique du don qui permet de pouvoir traverser vers l'autre rive. Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous pouvez donner? C'est quoi ton dernier dana? Il y a beaucoup de façons de donner. La façon la plus facile, la plus visible, la plus évidente, c'est des dons matériels. Alors, à chaque année, vous recevez des sollicitations. Alors, ça peut être sans traite, la Croix-Rouge, puis tout ça. Donner, donner, donner. Avec déduction d'impôts. Et c'est la façon de donner. Et la façon de donner, ce n'est pas pour sauver des impôts, ni pour des... La façon de donner, et qui devient un dana paramita, c'est de pratiquer ce dana de façon à pouvoir s'avancer un peu sur le chemin de la compréhension de l'inter-être. Lorsqu'on donne, il y a quelque chose qui nous appartient, ou bien qu'on pense qu'il nous appartient, ou bien qu'on croit qu'il nous appartient. Nous. Alors il y a le jeu, il y a cette chose qui nous appartient, mais il y a l'autre, je te le donne. Alors vous voyez comment nous séparons les choses? Le donneur, l'objet donné, et le receveur. Et la pratique, c'est de voir que ces trois choses-là sont une et non pas trois. Comment pratiquer le dana paramita afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir réaliser que le donneur, le don et le receveur sont la même chose? Il y a une façon de le faire. Lorsqu'on le donne, il y a des choses qui arrivent en nous. C'est quoi ces sentiments qui nous habitent? Comment on se ressent? Oh non, je devrais... $3, c'est trop. 2,50 peut-être. Alors lorsqu'on est dans ce processus-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous dérange. Pourquoi pas 10? Ben non, c'est ben trop. Ok. Pourquoi c'est trop? Pour pouvoir voir, comprendre, c'est quoi notre grasping? Pourquoi on y tient tant? Pourquoi on ne peut pas s'en défaire? Parce que c'est à nous. Parce qu'on est séparés. Et donc ça, c'est une façon de le voir. De voir c'est quoi notre relation avec les biens matériels que nous possédons. De pouvoir prendre cette occasion pour voir qu'est-ce que ça représente pour nous et qu'est-ce que c'est en réalité. C'est de voir aussi qu'est-ce que ça peut faire. C'est quoi les effets que cette chose-là peut faire. Et je le sais, et Diane le sait, et Diane le sait. Le café que nous consommons ici peut être le repas d'un enfant ou d'une famille au Vietnam pendant une journée. Alors c'est de pouvoir voir cette chose-là, ce que notre dollar peut faire pour aider à soulager la souffrance dans le monde. Et en le faisant, nous venons de toucher à notre compassion. Nous venons de toucher à notre amour. Nous venons de travailler en sorte que l'une de ces quatre choses-là sont alimentées et vont grandir. Et toute notre pratique nous amène à réaliser cela. C'est quoi la souffrance dans le monde lorsque nous mangeons? Devant cette assiette pleine, je vois que l'univers entier est en train de contribuer à me soutenir. Ce n'est pas juste la graine qui est là, c'est tous ceux qui n'en ont pas là-bas. c'est tous ceux qui sont en train de périr pour rendre ça possible, pour que ça atterrisse sur notre assiette. Et c'est cela la vision de l'inter-être. C'est de voir que ce qui nous arrive ici, ce qui nous est donné ici, c'est quelque chose qui est pris ailleurs. Et lorsque nous en prenons trop, et lorsque nous devons courir pour pouvoir baisser de poids, lorsque nous etc., etc. Lorsque nous prenons la moitié de ce qu'il y a dans notre assiette et que nous envoyons l'autre moitié au... Quelqu'un est en train de mourir pour ça, pour nos excès. L'inter-être, la compassion, la compréhension, toutes ces choses inter-sont. C'est la même réalité. Et c'est seulement par la présence à l'instant, savoir exactement ce qui est en train de se passer dans l'instant, qui nous permet de pouvoir peu à peu nous rapprocher de cette réalité. Dana Paramita, regardez comment. Une chose aussi qui est merveilleuse avec le Dana Paramita, c'est que les effets du don que nous faisons, nous n'avons pas besoin d'attendre très longtemps pour que ça fasse effet. Vous avez déjà donné. Vous savez ce que ça fait comme effet aussitôt qu'on donne. Et je me dis que chaque fois que j'ai la chance de le faire, le plaisir que je ressens et la joie et le bonheur que je ressens, c'est beaucoup plus que la personne qui le reçoit. Et mon maître a une image. Il prend comme exemple les plants de ciboulette. Il dit, si vous avez un champ de ciboulette, puis vous laissez cela, il va rester comme ça. Coupez-le. Deux jours après, dans la pluie, il y en aura trois fois plus. Et c'est comme ça que le Dana Paramita marche. Gardez votre scène dans le tiroir, ça va rester une scène. Confiez-le à la nature, et la nature saura en faire trois fois plus dans deux jours. Dana Paramita, ce dont je viens de vous parler, c'est le niveau le plus élémentaire et le moins noble du Dana Paramita. Lily a parlé de l'engagement de l'ordre de l'inter-être. Alors donc, il y a le don matériel en ressources, il y a le don de temps, il y a le don d'amour, il y a le don de soi. Et ça, c'est le deuxième niveau de don, beaucoup plus important, parce que ça se rapproche plus encore de notre cœur et de notre action. Et naturellement, le niveau le plus haut de don, c'est le don du Bodhisattva Avalokita, le don de la non-peur, et le Bouddha, le don de la compréhension parfaite. Dana Paramita, c'est une pratique, une des six voies de pratique qui peut nous permettre de pouvoir parvenir à l'autre rive, la rive de la non-souffrance. Et avec ça, je dois conclure parce qu'il est midi et deux. Donc je vais vous conclure avec une invitation. Et vous devez m'aider. Parce que ça fait 2 ans que j'en parle à Monique et à Lily, et puis elles ne veulent pas le faire. Mais je me dis qu'une retraite à la villa, ça coûte cher. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour l'organisation. Alors je voudrais vous inviter à m'aider à faire comprendre à ces deux dames que c'est très facile de pouvoir faire une retraite à Montréal, non résidence, dans nos locaux, vendredi soir, 3h, 6h à 9h, samedi matin, de 8h à 10h du soir ou 9h du soir, et dimanche, de 9h à 4h. On aura presque la même longueur que cette retraite. La seule différence, c'est que vous ne pourrez pas, vous pourrez dormir chez vous au lieu de dormir ici. Alors si on le fait, serez-vous là? Si on l'organise, est-ce que vous viendrez? Oui? Qui viendrait? Voilà. Prenez leur nom, Lily. Et puis je vais... Pour aider aussi nos amis à ne pas trop s'en faire, je peux aussi m'occuper de la cuisine. Alors donc, merci beaucoup. Je serai très heureux si au cours de l'été, on pourra avoir une retraite urbaine au centre de Côte-des-Neiges. Et si ça marche, et si vous aimez, on pourra même en faire sur une base trimestrielle. Parce que je trouve que ce genre de retraite, c'est vraiment très, très bénéfique. Et je manque toujours de temps. Parce qu'à chaque fois, je me sens plein d'énergie. Comme maintenant, je pourrais continuer une semaine. Parce que c'est toute l'énergie que nous avons cultiver, travailler ensemble et que je ressens maintenant. Et à chaque fois, là, je vais repartir puis je vais la dépenser sur la 13 et sur la 40. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble pour continuer. Hier, j'ai utilisé le terme de cuire notre patate. Alors c'est vraiment quelque chose que nous pouvons faire ensemble. Et donc, merci de considérer. On va vous annoncer la date très tôt pour que vous puissiez vous réserver cette fin de semaine. Et à bientôt. Merci beaucoup. Puis bonne continuation de retraite et à la prochaine.